impressionnant.
C'est pas mal, il y a des choses qui sont bien. C'est gratuit, c'est assez marrant.
À côté de Sèvres Babylone, c'est ça, là?
Très doux, sympathique, doux.
Oui, d'accord.
Ce genre de protection. C'est très doux. Alors, à propos de science, bah, j'y vais, enfin, non, de science, non, mais pas la duo. Non, non. Je sais plus où j'en étais arrivé, parce que je vous présentais plusieurs autour de la Villa Rotonda de Palladio. Et ce qui est assez impressionnant, d'abord, c'est des architectures signées. On a vu que Palladio a théorisé les principes qu'il a écrits, les livres sur l'architecture. Et puis, l'idée aussi de travailler sur des plans, sur des textes, sur des... ça a permis de faire des propositions et à établir quasiment une sorte de théorie d'architecture qui s'est trouvée démultipliée. Alors, ce qui est marrant avec son travail, c'est que ça va parfois de l'habillage très simple. On avait vu certaines maisons, c'est un cube, mais c'est un habillage relativement simple. Il va faire des adjonctions comme celle-ci, par exemple le fronton avec les quatre colonnes ioniques, etc. Et puis ça va être parfois des conceptions beaucoup plus vastes, on va le voir tout à l'heure. Donc Palladio vraiment construit un système et qui a un succès très important, ne serait-ce que les villas palladiennes autour de sa ville qui est Vicence, à côté de Venise. Il y a à peu près 24 villas palladiennes, hein, donc c'est qu'on dit palladiennes, avec certaines sont des, je dis, des bâtiments de ferme plus ou moins rénovés, et d'autres, on va voir, sont des véritables palais. Rappelez-vous aussi ce que je vous disais, il y a une sorte de presque une bijection, hein, pour parler mathématiques, entre les palais vénitiens et les villas palladiennes, parce que souvent, c'est les mêmes familles qui ont des terres et qui sont propriétaires terriennes, qui font une villa, principe de la villa, et des palais à Venise. Alors, il y a toujours l'idée de prestige. Venise, c'est la ville où on se montre. Tandis que le retour sur les terres, là, on est effectivement un peu dans un espace plus privé, mais on peut se déployer aussi de façon beaucoup plus vaste. Et c'est... Alors qu'à Venise, c'est surtout la façade qui va compter au niveau de la mise en scène, les villas, effectivement, c'est un volume total, c'est un espace total. Alors, je continue à vous passer quelques villas, puis après, on va voir aussi les inscriptions urbaines, hein, de Palladio. Alors, les villas, rappelez-vous, hein, aussi, comme je vous ai montré, certaines sont en fait de construction très simple. Le prestige, ça aussi, c'est typique peut-être de la Renaissance, va venir aussi de la conception plus que des matériaux. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui fait la valeur ajoutée, les proportions, les équilibres, les citations, mais le matériau reste un matériau vraiment extrêmement simple. Hein, c'est brique, comme n'importe quel bâtiment, même populaire, puisque on le voit quand c'est un peu usé. Les colonnes aussi, les colonnes que vous voyez sont sur le côté, sont des colonnes souvent qui sont même en brique, ou farcies, fourrées avec du béton, ce qu'on appelle du blocage, c'est des galets avec une sorte de ciment. Elles sont entourées, il y a une sorte d'entourage en brique, et ensuite c'est simplement de l'enduit, hein, qui imite le marbre. Alors évidemment, il y a l'inscription dans le paysage est très importante, on l'avait dit pour la Villa Mazère. Et puis on voit ici dans ce bâtiment plusieurs des... Alors, il y a une véritable signature de Palladio, par exemple les arcades, les frontons, les galeries avec des colonnes ioniques, les volets de marche, etc. Le côté un peu monumental, souvent les toits avec quatre pans, bon ça c'est assez classique. Et donc Palladio peut signer très, très rapidement, et on le voit encore, hein, le vocabulaire avec les galeries, les arcades, etc. Et puis l'inscription, alors ça... Il est un des premiers à commencer à penser aussi, effectivement, tout le parc, le jardin, hein, comme vous avez dit, comme une sorte de mise en scène, au sens strict, de la villa. Et il faut se souvenir que Palladio avait commencé, on le dit, comme maçon, enfin maçon, c'est-à-dire qu'il a manipulé des blocs de briques, des pierres, etc. C'est-à-dire qu'il a une conscience des volumes. Hein, ce n'est pas uniquement les façades, ce n'est pas uniquement la décoration, il a un grand sens des volumes. Et ça, on va le retrouver très souvent chez lui, c'est presque une vision de sculpteur, de la villa, de son architecture. Une pensée de l'espace, non pas uniquement habité, mais y compris vu de l'extérieur, presque comme un sculpteur conçoit la forme dans l'espace tridimensionnel. Ce qui fait que on comprend très bien aussi qu'il est pensé aussi l'approche des bâtiments. L'approche du bâtiment par les allées, par les parcs, qui donne des perspectives, hein, on l'a vu avec la Villa Rotonda, la façon dont il est mis en scène, les volets d'escalier qui sont aussi une manière de monumentaliser les entrées et puis de les distinguer, hein, distinguer l'entrée monumentale. Alors que rappelez-vous, si vous décomposez l'ensemble, c'est un bâtiment de ferme, si vous allez en bosse ou en brie, il y a plein de bâtiments de ferme qui sont aussi grands que ça facilement. la maison de maître, les écuries, les granges, et puis le pigeonnier, si vous voulez. En fait, ça reste des bâtiments de ferme, mais il faut leur donner quand même une importance de distinction, puisque ce sont des grandes familles vénitiennes. Alors, ça, je vous ai montré, on s'approchait un peu plus du palais urbain, dans lequel on va retrouver les colonnes, les galeries, les balustrades, et ce genre de choses. Alors, Palazzo Chianicati. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré ça.
Non.
Alors voilà, c'est qu'il y a un moment où ça va se déployer aussi, ce qui était relativement modeste. Palladio va être capable aussi de le déployer avec une ampleur parfois de plus en plus grande. Par exemple, en étage, ici, alors ça c'est Villa Angarano, Bassano del Grappa, donc c'est toujours un peu au pied des montagnes, etc. Là, on la voit d'un peu plus près, et là, on s'approche vraiment de quelque chose qui ressemble à un palais, voire un petit château. Ouais. Vous voyez, on va en voir d'autres. Celle-ci, alors ça, je me suis amusé à Villa Pisani, à écrire, etc. Alors là, vous avez effectivement quelque chose qui s'approche du château. Mais on retrouve quand même le fronton, les ailes, et puis les bâtiments externes, je ne sais plus comment on appelle ça, là, qui reprennent le principe du fronton en plus petit, qu'on avait déjà dans la Villa Mazère, un corps principal, des ailes et deux corps aux deux extrémités des ailes, et puis des galeries qui les rejoignent. Et puis, alors là, le parc qui est signifié, signalé de façon de plus en plus, on va dire, monumentale, avec des jeux d'eau, des bassins, des sculptures. Des sculptures ici, que l'on va retrouver ici, rappelez-vous, ça rythme la verticalité. Chez Palladio, il y a l'idée de combiner l'horizontalité du bâtiment et les travées, d'abord, de fenêtres, et puis, qui sont reprises par les colonnes, et aussi par les statues qui vont aussi, donc, faire une sorte de rythme orthogonal, horizontal et vertical, qui donne un équilibre au bâtiment. Alors, voilà ce genre de choses. Donc, le jardin et le parc devient un projet à part entière. C'est pas uniquement pour mettre en scène la maison, mais c'est aussi quelque chose qui devient aussi, qui n'est pas du tout un hasard. C'est l'idée de maîtriser la terre aussi, maîtriser la nature. Maîtriser la nature, on a vu, c'est typique de la Renaissance, l'ordonner. Rappelez-vous le thème du jardinier, de l'ordre, des mathématiques, de la géométrie, eh bien, appliqué aussi au territoire, puisqu'on le voit ici très bien, le dialogue entre le parc totalement construit et la nature un peu sauvage ou libre qui est tout autour. Donc on a vraiment là un dialogue qui est très très clair.
Excusez-moi, il y a de la végétation.
Alors oui, ça c'est sans doute parce que c'est un bâtiment qui est ancien et qui a été entièrement repris par du lierre ou de la vigne vierge sur le dessus.
Mais ça, c'était pas voulu. Hein.
Je pense pas. C'était un toit terrasse. Ça aussi, quelque chose d'assez nouveau. Alors, il peut y avoir aussi des commandes, parce que Palladio, il a longtemps été un peu oublié. Puis il y a plein de bâtiments, vous avez vu dans quel état ils sont. Hein, qui sont donc, même la documentation n'est pas toujours très claire là-dessus. Vous avez aussi des commandes, sans doute. Par exemple, vraisemblablement là, il s'agissait soit d'une personnalité qui voulait marquer la dimension militaire. Rappelez-vous qu'en Italie, vous avez beaucoup de condottieri, hein, qui sont des sortes de chefs un peu mafieux, hein, qui ont des petites armées à leur... Et donc, le côté un peu château fort, le côté un peu forteresse, peut aussi être un signe du type de famille qui lui a fait la commande. Regardez même en France, une partie des châteaux de la Renaissance sont des châteaux forts transformés, où certains gardent les tours d'angle pour signifier qu'ils sont d'une famille de vieille noblesse, de chevalerie, etc. Donc vous pouvez avoir aussi des petites connotations dans le bâtiment, comme par exemple ici, ce qui évoque plutôt des tours plutôt que la ferme. Plutôt que d'être un grand propriétaire terrien, celui qui a commandé Tricino là-bas a sans doute voulu signifier qu'il était plutôt de tradition, on va dire, militaire. Alors là, vous voyez, ça, on arrive carrément à un château, quasiment, sur la Brenta, donc près de Padoue, et là, le canal, la rivière, et là, quelque chose qui, évidemment, vous voyez que ça va influencer directement des choses. Versailles, plus tard. C'est très clair, mais c'est 200 ans, enfin, oui, presque 200 ans avant, hein. Donc vous avez là quelque chose de très clair, et là, voilà l'ensemble. L'ensemble, effectivement, ça c'est de l'autre côté, le fleuve est de l'autre côté, où on voit quelque chose, alors là, c'est plus
assez monstrueux.
Là, c'est un palais, voire carrément un château, et donc un déploiement de puissance extraordinaire.
Il avait même prévu un parking.
Oui, il devait y avoir de la cavalerie, là.
La cavalerie, et alors, évidemment, On peut imaginer les villas Contarini, le Palazzo Contarini, vous l'avez aussi à Venise. Très souvent, les villas, vous avez l'équivalent sur les palais vénitiens. Donc celui-ci est prodigieux. Là, vous avez la villa Pisani de tout à l'heure, mais vue autrement. Où là, on n'est plus du tout dans le petit bâtiment de ferme. Hein. On a quelque chose qui est remarquable. Alors, il y a plus de décors, il y a quand même plus de démonstrations. Les statues, le nombre de colonnes, de pilastres encastrés, etc. Le fait de s'élever du sol aussi, c'est quelque chose qui est important par l'escalier et par le basement, enfin, la partie basse, montre aussi une élévation, on va dire, sociale. Et puis, là, les portes, tout est conçu, effectivement, comme une totalité. Et voilà le palais, la Villa Pisani aussi. Je crois que c'est aussi la même
Villa.
Alors, ce qui est aussi clair, là, c'est le côté du palais face à la ville. Hein, donc, il y a une frontière. En même temps, il est un peu comme protecteur, comme référence, comme point d'opère, mais de l'autre côté de la rivière. C'est qu'on n'est pas du même monde, mais en même temps, ça se contacte et ça se regarde. Hein, les uns regardent les autres, de près ou de loin, et on voit bien. Alors, ce qui est quand même assez clair dans l'architecture de Palladio, c'est qu'il y a une distinction par les volumes, par l'ampleur, par les décors. Mais les matériaux restent simples. C'est-à-dire qu'en fait, et on verra aussi dans les églises, c'est-à-dire que le bâtiment est quand même dans la continuité, par exemple, de la ville. Puisque c'est des briques, c'est des tuiles, c'est pas beaucoup plus haut, c'est pas sur une colline. C'est, si vous regardez, c'est à peu près le même type de toit, le même type de mur, etc. Mais un peu amplifié, un peu beaucoup amplifié. Alors, il y a quelques variations, alors très rares, hein, dans lesquelles on voit que Palladio fait aussi des expérimentations, là où aussi il est souple. C'est quelqu'un qui, bien qu'il essaie de théoriser, il expérimente énormément. Et ça aussi, c'est très intéressant dans le travail de Palladio, c'est le jeu un petit peu, parce que, si vous voulez, il innove. C'est pas, on est dans une, au sens strict, la Renaissance, donc si vous voulez, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à lui, financières, et puis y compris au niveau esthétique et des volumes, donc des expérimentations comme celle-ci, qui c'est pas très heureuse avec les colonnes boursouflées, puis les chapiteaux ioniques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tout le travail de galerie, évidemment. Là, toujours. Alors là, on est un peu dans une sorte de prolifération de son principe. Hein. Donc, il redéploie, puisqu'il y a une sorte un corps, une avancée ici, qui est redoublée ici par une deuxième avancée, qui elle-même redoublée ici, etc.
Alors, un bâtiment officiel, c'est ça ?
Non, villa Barbarigo, c'est encore une villa. Ah oui, depuis maintenant, peut-être, oui. Ça a peut-être été racheté en consulat ou en mairie. Ou en, oui. Ou en... Mais ça va être pour Berlusconi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est donc. Oui, c'est ça. Ah, oui. Alors. Il y a quand même une chose, c'est qu'on est au XVIe siècle, c'est-à-dire que c'est quand même la période maniériste, et cette espèce de liberté, il y a à la fois toutes les règles héritées de la Renaissance, mais il y a des tentations qui sont aussi un peu vers l'excès. Vous verrez, enfin, je ne sais pas si on verra, mais il y a un passage aussi qui va se faire, dans de Palladio, aussi vers le baroque, c'est-à-dire que tout d'un coup, le jeu et l'expérimentation vont parfois basculer, il y aura des expérimentations baroques, où là, justement, on est dans le déploiement à l'excès des décrochements, des corniches, des volumes, des avancées, des avant-corps, des statues, etc. Donc le bâtiment va se gonfler, un petit peu ça, avec les baroques parfois chantilly, carrément. Vous voyez, là, on est encore dans l'orthogonalité, on est dans les angles droits un peu partout, il y a très peu de courbes, ça c'est assez clair, et c'est quand même très équilibré. Hein, donc il y a quelque chose qui est... Mais vous voyez, on voit même ici, les arcs linsâtres sont à la limite d'être outrepassés. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est des arcs presque orientaux, puisque les chapiteaux ici qui sont dans les... sont tellement importants qu'on a presque l'impression qu'on se rapproche plus du cercle que du demi-cercle. Hein, donc il y a quelques tentations comme ça. Là encore, hein, y compris on a vu les gonflements avec les appareillages qui se font apparaître. Ici, il y a des choses qui annoncent aussi l'architecture baroque, par exemple, c'est tout d'un coup les courbes sur les tympans et sur le faîtage et les contre-courbes ici, qui sont typiques souvent du baroque, hein, cette espèce d'alternance et de contrepoint, courbe convexe, concave, etc., cette espèce de rythme. Là, on voit qu'il y a des libertés qui se font, qui sont...
Mais c'est pas très fleuri, tous ces jardins, non?
Non.
C'est un peu pelé.
Alors,
il fait chaud.
Oui, c'est l'Italie quand même. Hein, oui, donc,
Oui.
Oui, donc... alors par contre, à l'intérieur, presque toutes ces villas sont peintes. Alors, en ville, là, ça c'est marrant, c'est à Vicenza, justement, la petite ville qui est un petit bijou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment remarquable. C'est à une heure à peu près, même pas en train de Venise. Juste un truc, si Venise est un peu cher, difficile d'y aller, vous pouvez séjourner à Vicenza, c'est moins cher, puis il y a le train direct. Et vous arrivez en train à Venise, comme ça dans la journée, vous pouvez le faire très facilement. C'est une bonne manière d'aller à Venise sans être forcément au cœur de... Et Vicence, alors ça s'écrit V-I-C-E-N-C-E en français, et Vicenza, V-I-C-E-N-Z-A en italien. Et là, c'est la loge du capitaine, la loggia del capitano. Alors là, c'est quelque chose de très intelligent, du point de vue y compris de la Renaissance, parce qu'il va... Alors ça s'inscrit, comme je vous le disais, tout à fait dans le volume urbain, ben, le tissu urbain, c'est sur une place. La maison n'est pas plus haute que les autres, mais elle est monumentalisée par des colonnes engagées, qui ne sont pas détachées, elles sont engagées, de type corinthien, qui d'un coup sont gigantesques et sont un peu comme une sorte de... comme si c'était une ruine. C'est comme si c'était la ruine d'un monument beaucoup plus vaste, et beaucoup plus ancien et beaucoup plus grand. Donc comme si vous aviez une sorte d'héritage que ce capitaine, donc c'est une sorte de préfet, je crois que, etc. Mais vous avez effectivement comme un bâtiment qui est presque comme inachevé, alors qu'il est complètement pensé comme fini. Donc ce jeu d'échelle, ce jeu de disproportion, c'est, on voit bien comment Palladio a un sens des volumes, justement, hein, des échelles, et il joue sans rien modifier, justement, au volume réel, mais vous avez une perception qui est clairement différente, qui le dissocie, parce qu'il s'agit bien... en fait, d'une architecture de prestige. Alors, sur les façades des palais vénitiens, déjà être sur le Grand Canal, c'est déjà pas mal, mais c'est tout un travail de façade. Dans les villas, vous avez le travail sur l'espace et l'étendue, et la mise en scène. Dans un tissu urbain, vous avez beaucoup moins... D'abord, vous ne décidez pas forcément des places, des rues, de la distance, ni des volumes. Donc, comment distinguer un bâtiment tout en l'intégrant, c'est ce que réussit Palladio de façon très intéressante, avec sa signature à lui, les balustrades, le rythme ternaire ici, et puis le jeu sur la monumentalité. Alors en même temps, Palladio ne travaille pas beaucoup sur l'illusion, on voit bien que c'est des matériaux simples, hein, en fait, hein, comme cette loge du capitaine à Vicence. Et là voilà, un petit peu, alors on en voit bien, hein, comment est-ce que c'est tout à fait le même volume, mais il y a une distinction. Alors, Loggia del Capitano, Vicenza, 1565. Et voilà une autre vue. Alors évidemment, la Renaissance aussi, c'est un petit peu comme si on se remémorait la grandeur de Rome qui, tout d'un coup, est captée par certains personnages princiers ou importants qui, tout d'un coup, se mettent en scène comme les héritiers de la grandeur passée. Évidemment, ça c'est très clair. Comme s'ils s'appropriaient une culture ancienne et pour en faire effectivement leur résidence. Alors à Vicenza, vous avez aussi ça, qui est absolument sublime, c'est le palais de la raison, qui on appelle même basilique palladienne, et qui est toujours à Vicenza, alors ça c'est sur la même place. Et c'est là où c'est intéressant, parce que Palladio, il pense vraiment à peu près tout. Il pense les villas riches, les maisons dans la ville, il va penser aussi les églises, mais il pense aussi les bâtiments publics, et collectif, comme cette basilique palladienne. Alors en fait, le palais de la raison, il y en a dans beaucoup de villes de la Vénétie. Il y en a à Mantoue, il y en a à Padoue, il y en a à Vicence, il y en a peut-être ailleurs. En fait, ce sont des grandes halles, à l'origine, qui datent déjà du XIIIe, XIVe siècle souvent. Et là, Palladio l'a entièrement réhabillé pour en faire un palais communal. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui est aussi un hommage à la force de la cité, à la vie publique, puisque les palais de la raison abritent les assemblées des citoyens. Il y a parfois aussi les marchés, même encore maintenant, le marché qui peut être en bas entre les arcades. Vous avez aussi des boutiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est aussi l'idée... on l'a en France avec les grandes halles. Mais si vous voulez, les grandes halles ne sont pas monumentalisées comme ça. Donc il y a aussi l'idée que la ville ait une homogénéité esthétique, hein, puisqu'il va utiliser le même vocabulaire pour les villas, pour la loge du capitaine, ou par exemple pour le palais de la raison, dans lequel on va retrouver avec la même dignité, la même monumentalité, les colonnes engagées, la balustrade, ce qu'on appelle la serlienne, c'est ce rythme qui est vraiment la signature de Palladio, c'est dans un carré, vous avez l'arcade principale et vous avez deux petites volées sur les côtés qui sont rythmées là par des œils de bœuf ici. Donc c'est une façon comme ça d'animer la surface et puis en même temps d'ouvrir, hein, le fait d'avoir des galeries ouvertes, ça invite aussi à aller se promener et c'est d'ailleurs encore... Ça fonctionne encore toujours comme ça. C'est-à-dire que ça reste un palais municipal, c'est toujours un marché, il y a encore des boutiques, et c'est encore quelque chose qui est utilisé pour ce que c'était. Alors le palais de la raison, ça aussi c'est assez drôle, c'est que je vous en montrerai d'autres à côté, c'est que on fait hommage à la raison. Hein, donc là vous avez le palais de la raison, mais qui est une sorte de contrepoint aussi des grandes basiliques chrétiennes ou des grandes églises chrétiennes. C'est cette idée aussi d'un contre-pouvoir et d'un équilibre de la vie réelle, la vie de la cité, la raison, hein, qui est donc cette ici en horizontalité plus qu'en verticalité aussi, et puis qui est ouverte à tous. Donc cette idée d'un partage qui est assez, assez claire. Alors voilà d'autres visions, parce que ça fait des idées, on peut en faire le tour. Et par contre, le toit. Que vous voyez, pourquoi est-ce que ce palais peut être aussi léger ? Parce qu'en fait, le toit est en... c'est une carène de bois. Le toit est en bois, parce qu'il est ancien, c'est gothique. S'il avait été en voûte, en pierre, ça aurait été beaucoup trop lourd, et il aurait fallu un appareillage beaucoup plus massif de murs et de contreforts pour le supporter, pour le soutenir plutôt. Donc vous avez ici une très très belle... Alors c'est des architectures magnifiques en bois, hein, comme dans les halles, qui sont de très grande beauté, très très vastes. Et qui sont donc, d'ailleurs, on voit, tenus par des murs de briques relativement légers sur le dessus. Mais ce sont des voûtes remarquables. Alors ça, c'est à Vichens. Alors regardez, toujours à Vichens, le même truc que la loge du capitaine, mais encore plus petit, mais qui fonctionne aussi très bien. C'est quasiment une petite maison sur laquelle il va appliquer le même principe avec une grande audace, parce que justement, hein, ça pourrait être ridicule. Et puis en fait, l'idée d'être une sorte de fragment d'un monument beaucoup plus vaste lui donne une certaine noblesse, et etc. Alors là aussi, c'est très intelligent. Si vous regardez bien le nombre de niveaux de lecture entre la base, le premier étage, l'espèce d'entre la zone ici neutre, les galeries, la hauteur ici, qui signifie quand même qu'on est devant des places de prestige, devant des pièces de prestige, puisqu'il y a une grande hauteur des baies. Et puis là, peut-être des pièces plus intimes, etc. Donc quelque chose aussi de très étonnant, et ça c'est le palais Porto Bregenz, c'est toujours à Vicenza. Et ça va aussi sur des choses beaucoup plus petites, je ne sais pas où c'est la Casa Cogolo, dans laquelle on retrouve aussi la signature, les balustrades, la serlienne, la monumentalisation, et puis les équilibrages verticalité, horizontalité. Alors vous voyez que le langage de Palladio, il se déploie, il expérimente beaucoup de réalité architecturale, y compris de conditions. Alors l'intérêt d'ailleurs de l'architecte, et Palladio le voit bien comme ça, c'est que l'architecte, il a beaucoup de contraintes. Et donc comment réussir à laisser sa marque, un style, des principes théoriques et des notions qui lui sont propres, malgré toutes les contraintes. Les contraintes d'argent, les contraintes de volume, les contraintes d'espace, les contraintes des commandes, hein, de qui commande, etc. Vous avez donc Palladio qui essaye aussi et qui réussit à être artiste dans un monde où les architectes étaient vus, surtout pour les grandes églises, etc., comme effectivement des grands concepteurs, mais souvent ils ne s'y mettaient pas, et ils n'avaient pas théorisé leurs principes. Il y avait Alberti, on a vu Brunelleschi, on a vu Bramante, Palladio en est un aussi, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, Palladio va aussi avoir des commandes pour des églises, hein, des façades. Alors, chose assez bizarre aussi, assez intéressante aussi en Italie, c'est la façon dont les églises s'inscrivent dans le tissu urbain, justement. Elles sont rarement totalement détachées. Ils sont rarement totalisés. Vous avez vu Saint-André de Mantoue. Moi, surtout la façade, on a du mal à saisir l'ensemble. Bon, à Venise, par exemple, et là encore, c'est encore plus vrai, c'est qu'elles sont totalement encastrées et on voit. Donc, ça va beaucoup se faire sur les façades. Ça va beaucoup se faire sur les façades. Il faut donner donc toute la dignité de l'église, etc., de l'entrée. Et en même temps, on n'est pas du tout encore dans la période baroque où tout va être dans la façade. L'arrière va être extrêmement sobre. Et Palladio va essayer aussi quand même de penser l'ensemble du volume des églises. Alors, on va le voir dans d'autres. Alors, San Pietro di Castello, c'est vraiment la zone un petit peu où il n'y a quasiment pas de touristes à Venise. Et là, on voit un travail très orthogonal, très géométrique, de cercles et de triangles, avec encore, à sa manière, la signature de la Serlienne, c'est-à-dire le carré avec une... l'occupation principale monumentale d'une porte qui occupe presque la moitié de la hauteur du carré, flanquée de deux travées plus étroites à droite et à gauche, etc. Donc, jusque dans les églises, il va faire sa signature. Alors, évidemment, San Giorgio Maggiore, là, il va bénéficier du canal comme une mise en scène, comme le jardin, comme l'allée, comme le parc. Le canal oblige un recul. Et là, ça, il y a une scénographie remarquable. Et vous voyez que Palladio va aussi penser le volume derrière. C'est-à-dire que là, comme par le canal, on peut tout voir, eh bien, l'église se distingue, pas uniquement par sa façade, mais y compris par ses volumes simples. Hein, des volumes très sobres, mais très lisibles. Hein, la croix, le transept, la coupole, le campanile, la nef, et encore là, le vocabulaire palladien avec ce que je vous ai déjà dit, etc. Hein, très très clair. Alors, il y a aussi quelque chose qui est un peu conceptuel chez Palladio, c'est que ça soit un palais ou que ça soit une église, on utilise des matériaux simples. C'est-à-dire que le palais ou la villa, ou même le palais vénitien, le prince italien, ou les princes, les familles italiennes, sont quand même dans la ville. Ils sont, surtout en plus à Venise, où, si vous voulez, les familles là, en Vénétie, c'est une république, théoriquement. Donc, si vous voulez, les familles, même riches, ne peuvent pas être totalement coupées du pouvoir, puisque c'est elle qui élise les doges, et c'est une assemblée de familles riches. Mais donc, elles participent quand même à la vie collective. Donc, il faut aussi... Les palais ne peuvent pas être totalement coupés du monde. Ils peuvent pas être totalement coupés. Donc, même dans les matériaux, il y a une sorte de connivence hein, qui fait qu'il faut se distinguer, mais en même temps, pas se séparer complètement. Ben, l'Église, c'est pareil. L'Église, normalement, elle est faite pour tous aussi. Donc, elle doit être aussi glorieuse. Mais en même temps, il faut la montrer un peu comme une maison simple, elle est en briques. Elle a un toit à pente comme une maison. C'est une maison. C'est une maison, mais effectivement, qui est magnifiée par la façade, cette espèce de dignité, hein, mais qui n'est pas un voile, qui ne se cache pas. Le paradoxe, quand même, pour les églises, alors ça, c'est le Rédempteur qui est sur la Giudecca, je crois, juste en face, l'île un petit peu à part, là. Alors là aussi, vous avez un jeu là, de démultiplication des triangles, mais on voit très clairement le volume extérieur, hein, des grosses masses simples, sobres, des cubes, des sphères, des cylindres, des pyramides. Là, on voit bien aussi les volumes simples que pense Palladio, hein, qui l'emboîtent les unes dans les autres. Et on voit, si vous voulez, qu'il reprend exactement les rythmes. Hein, les rythmes des toits des maisons qu'on va retrouver dans les tympans, ils sont un peu amplifiés, ordonnés, avec du marbre, mais là encore, pas quelque chose qui écrase. Donc l'intégration là, des églises de Palladio se fait remarquablement. Alors ça donne, dans Venise, en fait, on se rend compte que les églises de Palladio, elles sont très connues, parce que en fait, elles sont tellement bien à leur place, bien intégrées, et y compris le jeu sur les volumes extérieurs, hein, voilà, brique, la simplicité des volumes derrière, font que ça fonctionne absolument parfaitement. Alors il y en a d'autres, hein, il y en a qui sont un peu plus cachés, il y en a une, je ne sais pas si vous connaissez, elle est très chouette parce qu'elle est totalement à part à Venise, il y a deux cloîtres très beaux, si vous voulez pique-niquer tranquillement, il n'y a personne dans cette église, il n'y a vraiment personne. Et c'est Saint-François des Vignes, et vous voyez, alors là, il n'y a pas le recul du canal, il n'y a pas tout cela, donc, mais Palladio continue quand même avec toujours un vocabulaire très très clair. Je vous dis, le paradoxe, c'est de faire des églises chrétiennes qui ont l'air de temples gréco-romains. Quand même, les gothiques, ils avaient leur propre logique, les romans aussi. Là, c'est quand même aussi l'idée, ils continuent, hein, alors qu'avec l'art baroque, ça va, il y aura quelque chose qui va se dissocier clairement, mais Palladio va continuer à essayer de faire un lien un peu dans l'esthétique de Raphaël, le Piero della Francesca, entre le christianisme catholique et la tradition gréco-romaine, jusque dans les citations, puisque très clairement, on est devant la citation de temples grecs et romains, les colonnes, le tympan, etc. Donc c'est toujours quand même une façon de s'inscrire, de réconcilier l'héritage des cités, des républiques ou des empires romains et la tradition catholique. Là, c'est aussi... et sans conflit, hein, puisque on le voit clairement. Mais ce qui domine, c'est pas les croix, c'est pas les statues, c'est pas la décoration. Ça, c'est quand même les mathématiques, les proportions, qui restent le signe, finalement, de l'ordre du monde, c'est l'ordre divin. Hein, la proportion divine, la divine proportion, etc. Ce qui fait que sciences mathématiques sont un peu la signification de cet ordre-là. Bon, ça, je passe. Alors, il a fait aussi quelque chose qui est assez stupéfiant. Parce que Palladio, c'est quand même un architecte très prolifique. Et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant. C'est le théâtre olympique, toujours à Vicence. Théâtre olympique, je ne sais pas s'il a été théâtre anatomique. Parce que vous savez, il commençait à y avoir des théâtres anatomiques, il y avait des dissections. Mais en tout cas, c'était un théâtre qui n'est pas très grand, qui est dans un bâtiment, vous passez à côté, c'est un bâtiment en pierre, en brique, il n'y a rien d'exceptionnel. Et quand vous rentrez, vous avez un théâtre qui n'est pas du tout à l'italienne, justement, mais à l'antique, où il a reconstitué un grand amphithéâtre romain, avec y compris le mur de scène, les gradins, les colonnes, les statues, etc., et toute la décoration cohérente, etc. Alors, ce théâtre a aussi une particularité, c'est ça. C'est un jeu assez remarquable de trompe-l'œil. Certains l'ont vu ou pas, non ? Oui. Et vous avez au centre, vous avez quelque chose qui est très beau. On a l'impression d'être devant une rue. En fait, ce n'est pas une peinture. C'est presque une sorte de maquette dans laquelle il a vu. Et c'est là où on voit l'invention, le génie de la perspective, c'est qu'il a parfaitement compris tous les jeux de perspective de Alberti, de Vasari, de Donatello, Brunelleschi, etc. Il fait ce qu'on appelle une perspective accélérée. C'est-à-dire que vous avez donc l'impression d'être devant une grande rue, alors que ce que l'on voit réellement, c'est même pas profond comme la pièce. C'est un jeu donc d'accélération de la perspective. C'est en fait... d'ailleurs, quand vous y allez, quand vous visitez, il y a un démonstrateur qui se met debout ici, donc il est à peu près, sa tête arrive à peu près où est la flèche, ici, vous voyez, et il commence à marcher vers le fond. Et en fait, quand il arrive au fond, il est grand, en fait, comme... il est plus grand que la porte du fond. Donc, c'est ce qu'on appelle une perspective accélérée qui donne une illusion. Donc, c'est un jeu, là, de mise en scène. Donc, on voit bien que Palladio, quand il fait ses mises en scène, ses palais, ses jardins, ses dispositifs, ses circulations, comme ça, il a tout à fait conscience des effets de volume, d'échelle, de monumentalité, etc. Donc, ces jeux d'échelle, de mise en scène, sont très, très clairs. Donc, c'est un jeu. Alors, ça aussi, vous avez le jeu. On voit qu'on est arrivé à un sommet, si vous voulez, des techniques et des savoirs de la Renaissance en termes d'architecture, de perspective, de référence gréco-romaine, de type de construction. Et vous avez vu qu'il s'intéresse à tout, y compris aux loisirs, etc.
Est-ce qu'il servait de théâtre ?
Ah oui, ça servait réellement. C'est pas un palais, c'est... Alors, il devait jouer devant, etc. Et là, vous avez des coulisses aussi. Vous partez par la droite et par la gauche. Et donc, la scène,
vu tout à l'heure.
C'est ça. La scène était là. Donc, c'est des entrées, des coulisses. C'est des gens qui pouvaient disparaître. Hein, mais ça donnait une sorte de sensation de profondeur, y compris le ciel, qui est peint en trompe-l'œil. Et là, alors, le son, évidemment, bon, comme c'est pas très grand et parfait, mais on joue effectivement sur l'échelle et la citation, la référence romaine, évidemment. La grandeur romaine, comme on le voit ici, avec y compris les sculptures, les métopes, les triglyphes sculptés, etc. Alors l'idée du trompe-l'œil, ce n'est pas le seul. Bramante, un des architectes de Saint-Pierre de Rome, qui était l'oncle de Raphaël, avait déjà aussi travaillé sur un trompe-l'œil à la sacristie de Milan, dans une des églises de Milan. Là, vous voyez bien sur le côté, on voit qu'il y a une vraie fausse voûte. Et en fait, quand on est en face, on a l'impression d'être devant vraiment une voûte tout en profondeur. Donc le jeu sur le trompe-l'œil architectural, c'est quelque chose aussi qui se fait. On appelle ça aussi un morceau de bravoure. C'est une manière de montrer qu'on sait jouer sur les volumes, l'espace, la vision et la place du spectateur aussi. Ça aussi, c'est que tout d'un coup, tout est pensé, y compris là où se trouve le spectateur, y compris dans l'architecture. Comment est-ce qu'on approche d'un bâtiment, comment est-ce qu'on tourne autour, comment est-ce qu'on se met devant, comment est-ce qu'on rentre. Tout ça, ce sont des choses qui sont pensées, y compris à quelque chose de très visuel. Hein. Alors ça, ce sont des variations. C'est pour vous montrer ça, c'est pas du tout de l'époque de Palladio, mais en fait, vous retrouvez sans le savoir, on retrouve une multitude de rythme palladien, ça je crois que c'est en Angleterre. Alors c'est surtout en Angleterre d'ailleurs que l'influence de Palladio sera la plus forte. Comme en France, très vite, d'abord on est resté gothique très longtemps, et puis il n'y a pas tellement d'architecture urbaine. Hein, en fait en France, très vite, ça va être soit les châteaux royaux, soit les châteaux de Pays de Loire, châteaux princiers ou royaux, etc., ou les genre Château de la Loire, etc. Vous n'avez pas la même pensée. Et dès que les Italiens arrivent en fait en France avec François Ier et puis par la suite, très vite on arrive, on n'est plus dans la Renaissance en fait. On est très vite 16e, 17e. Et ce qui va surtout être marquant en France au niveau des châteaux et de la construction urbaine, c'est plutôt le style Henri IV, hein, 1610, etc. Et par là, les briques, les ardoises, les trucs, et c'est plus du tout les mêmes références que Palladio, alors que les Anglais vont rester assez fidèles à Palladio, pour des raisons, je ne sais pas d'ailleurs. Alors voilà, les dessins de Palladio, une des choses aussi de la fortune de Palladio, c'est que on est après l'imprimerie, donc on a des gravures, il a des textes, il a théorisé, il a fait des plans, des élévations, des prises de notes, etc. Et ensuite, comme c'est un constructeur, c'était une sorte de maçon, lui, c'est pas uniquement du décor, c'est qu'il pense tout. Il pense les matériaux, il pense les vides sanitaires, il pense les caves, il pense les greniers, il pense toutes ces choses-là. Et donc ces dessins sont des dessins aussi techniques, qui sont remarquables dans l'histoire de l'art. Là, c'est d'une très grande précision. Bon, c'est un petit peu en vrac ce que je vous montre. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que si vous voulez, vous pouvez faire du Palladio finalement à peu de près aussi, parce que c'est un travail de proportion. C'est-à-dire que la citation palladienne avec la serlienne, eh ben, ça fonctionne. Hein. Alors, vous avez aussi... Palladio a été un peu oublié, donc maintenant on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui sont du Palladio et qu'on va retrouver, qui sont réhabilitées. Et alors, comment est-ce qu'on les retrouve? Parce que ce n'est pas toujours signalé. Eh bien, souvent, parce qu'il a un vocabulaire précis, hein, comme on le voit ici. Bon, ça, c'est un peu du vrai. Alors, voilà, c'est terminé. Hein, alors là, vous avez le plan élévation. Hein. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont les plans et les élévations de villas qu'il a réalisées, de bâtiments qu'il a réalisés, mais aussi des choses qui sont des hypothèses, des prospections, et donc qui sont des projets. Donc, tout n'a pas été réalisé. Et ça aussi, c'est quand même remarquable. C'est que l'architecte, effectivement, il peut réaliser, mais aussi il peut penser. D'ailleurs, vous savez que c'est quelque chose qui concerne tous les architectes. Hein, comme Le Corbusier, il y a des livres entiers, des villes entières pensées par Le Corbusier qui n'ont pas été réalisées, donc il y a des projets qui sont prodigieux. Hein. Et l'intérêt de l'architecte, c'est qu'il peut effectivement donc se projeter, comme par exemple Palladio. Alors, voilà, attendez, sur Palladio, alors maintenant je vais voir autour de Palladio, ça c'est quoi? Non, ben, ça c'est du rab. Alors, quelques repères pour rappeler un petit peu Palladio. S'inscrit donc des choses qu'on a déjà vues, alors je vais vous rappeler rapidement, puis certaines je vais interrompre. Ça, on l'a vu, c'est de Bramante, le temple Pietro, hein, qui est à Rome, on l'avait vu quand on a vu Alberti. Ça, c'est de Brunelleschi, les galeries et les colonnades, comme par exemple ici. Et on avait vu chez Brunelleschi la sobriété aussi des moyens. Alors là, vous avez une vue que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure, et parce que c'est pas le palais de la raison de Vicenne, ça, c'est le palais de la raison de Padoue, qui est assez remarquable aussi. Alors, on voit, celui-ci n'est pas habillé par Palladio. Vous voyez, on est encore dans des arcades qui sont plus simples, et on voit la différence avec celui de Palladio. Mais on voit aussi la difficulté de prendre du recul, hein, dans un bâtiment qui est totalement enserré dans les pâtés de maison. Hein, mais c'est tout à fait le même type de bâtiment que le Palais de la Raison de Vicenza. Mais on voit bien la différence entre celui de Palladio et celui de Padoue. Celui de Vicenza, c'est celui de Padoue. Alors voilà, d'ailleurs, comment est constitué ça? C'est celui de Padoue, toujours. Hein. Alors là, un dessin un peu en coupe, comme je vous dis, une carène en bois très très grande, des très hauts murs, monumentales. D'ailleurs, à celui de Padoue, vous avez une statue équestre gigantesque. Et à Padoue, vous avez même aussi une reconstitution du pendule de Foucault. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais il y a le pendule de Foucault à l'autre extrémité. Et vous avez effectivement les galeries, le marché, les galeries commerçantes, et puis vous avez des petites échoppes ici. Et en plus, ça, ce que vous trouvez à Vichennes et à Padoue, c'est que ce palais, ça c'est très intéressant, c'est le palais de la raison, parce qu'on peut les traverser. C'est comme les halles, en fait. Vous pouvez passer et croiser, c'est pas un obstacle. Donc il s'inscrit, y compris au niveau de la circulation. Là, on n'est pas uniquement devant, on peut le traverser en bas, on peut monter à tous les niveaux. Et quelqu'un comme Le Corbusier reprendra ça plus tard avec les pilotis. C'est l'idée qu'un bâtiment n'est pas un obstacle, hein. On doit aussi pouvoir dégager le sol, comme il le fait ici. Et retrouver. Oui.
Ça m'interpelle un peu ce toit là qui est comme ça. Il est réellement.
Ah non, là c'est juste. C'est juste pour montrer. Alors l'extérieur, c'est ça.
Mais quel matériau ?
Alors là, je crois que c'est ça avait l'air d'être du cuivre ou du zinc. C'était du métal. Parce que en tuile, ça aurait été trop lourd. En tuile, c'était trop lourd. Je crois que donc c'est des métaux. Alors ça, en tout cas, Padoue, ça vaut le coup d'aller voir ce bâtiment. Et voilà l'intérieur. Celui de Padoue, alors celui de Vichennes, c'est assez propre. C'est assez proche, c'est extraordinaire, hein, c'est magnifique. Hein, parce que, et là on voit aussi, ce qui est aussi bien, c'est que l'art roman, gothique et renaissance ont presque éliminé les toits en bois. Alors ça brûlait, c'était plus fragile, et puis ça faisait mieux, c'était plus une démonstration de force, donc ça va faire des toits en briques, en pierre, en solide. Mais en même temps, on a perdu en espace, souvent. Donc l'architecture en bois aussi permettait des espaces extraordinaires. Donc, beaucoup ont disparu, puisque c'est plutôt les temps en Italie, puis même en Europe, en France, une bonne partie des églises étaient faites en carême de bois. Mais on voit quand même le génie des architectes et des charpentiers pour avoir ce type de portée, hein, et de hauteur, et imputrescible, etc. Et puis ça dégage des espaces que les architectures en pierre ne réussissaient pas à dégager. Avec la même ampleur. Alors voilà, ça c'est celui de Padoue, hein, vous voyez bien. Alors c'est vraiment exactement le même bâtiment, mais il n'y a pas le côté monumental. On est quelque chose de beaucoup plus simple, hein, comme ici. Juste une chose, il est toujours gratuit le 8 mars. Faites des femmes, etc. Voilà. Alors, d'autres choses qui sont contemporaines de... Palladio, il n'est pas tout seul en fait, c'est quand même, il est porté par une société qui évolue et puis qui change, donc les commandes extérieures, l'idée du palais, l'idée de la monumentalisation, le travail sur le parc. À Mantoue, c'est toujours la même région, hein. Mantoue, Padoue, Vicence, Venise, c'est la Vénétie, hein. Et vous avez le palais du thé, et en fait le palais du thé qu'on a déjà vu, hein, et qui est très proche finalement des villas palladiennes. Hein, et ça, on l'a vu l'autre fois avec Alberti, avec y compris les choses qui sont pas loin des serliennes et des rythmes ternaires, etc. Et y compris, ça, on l'a vu l'autre fois, le jardin. Alors, on est dans une grande sobriété, hein, mais on est quand même... Alors, il y a ça aussi, je vous parlais des châteaux et des références aussi quand même aux châteaux forts. C'est que vous avez un peu de tendance, soit le palais de résidence très... totalement intégré, on est dans les villas, les palais de plaisir, mais vous avez aussi quand même parfois certains qui veulent faire référence à leur force militaire, hein, pas uniquement le prince éclairé, etc., mais aussi la force militaire, comme par exemple des palais comme celui-ci, pas loin, c'est toujours à Padoue, dans la même région, où là, des véritables forteresses, hein, on sait qu'en France, une bonne partie des châteaux vont être transformés en résidences, hein, les meurtrières vont laisser la place à des fenêtres plus grandes, hein, mais en fait, souvent, c'est des châteaux forts qui vont être allégés, aménagés. Parfois, vous aurez même des vrais faux anciens châteaux forts. Donc, un dialogue aussi entre une aristocratie militaire ou des familles puissantes, ça dépend un peu des structures sociales, soit en France, soit en Italie, c'est pas la même chose. Mais toujours est-il que vous avez quand même l'idée que si le château fort se transforme en palais, c'est qu'il n'y a plus besoin de se battre, c'est qu'on est fort. Donc là aussi, en France, c'est pareil. Si les châteaux forts laissent la place à des grandes ouvertures, c'est qu'ils ne craignent plus rien. Donc vous avez aussi les grandes baies vitrées, les grandes ouvertures en architecture, c'est une manière de dire, je crains plus rien, personne ne va venir m'attaquer parce que je suis plus puissant que ça. J'ai plus besoin de m'abaisser à me protéger dans mon château. Mais en même temps, je viens de familles qui se sont battues, qui ont été fortes, puissantes, etc. Donc alors là, on est quand même quelque chose de... Attendez, ça s'appelle comment celui-ci ? Ah ben, Battaglia, d'accord. Alors voilà les 10 livres de l'architecture, donc c'est quelque chose qui a été réédité en plus quand même tout le temps. C'est-à-dire que La Fortune de Palladio, c'est quelque chose... Non, c'est Alberti. Mais c'était, oui, dans les références, c'est que Palladio a continué l'idée d'Alberti, c'est-à-dire de mettre, de faire des livres et de pouvoir les transmettre. Alors ça, je voulais montrer Saint-André de Mantoue, c'est une des références. Hein. Ça, on a vu aussi Pienza, on a vu La Cité Idéale, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu aussi. Et ça aussi, c'est le temple Sigismond Malatesta à Rimini. Alors, je voulais quand même vous montrer aussi, puisque tu parlais de fleurs, Martine, il y a quand même, dans presque toutes les villas palladiennes, alors beaucoup ont été abîmées, et il ne reste plus de traces, c'est que presque toutes les pièces intérieures sont ornées de fresques très légères et colorées. Alors, comme ce sont en plus des fresques civiles, il n'y a pas la dramatisation, on va dire, religieuse. Donc, c'est souvent des mythologies gréco-romaines, des légendes, même médiévales parfois, qui sont ou des... Ça peut venir de Dante, ça peut venir de Larios, ça peut venir de Boccaccio, etc. Vous avez donc des références, y compris de littéraires, qui vont permettre, comme ça, d'occuper ces espaces. Alors, un des intérêts aussi, et c'est le paradoxe intéressant, c'est que comme c'est des matériaux à l'origine simples, puisque c'est de la brique, du béton et de l'enduit. Eh bien, si vous voulez, on peut le peindre. Si c'était du marbre, on n'irait pas peindre le marbre. Donc le fait que le matériau soit pauvre, la valeur ajoutée, c'est le travail, c'est l'art, mais ce n'est pas le matériau lui-même qui est riche. Et par exemple, la Villa Mazère, j'ai commencé par la Villa Mazère, décorée entièrement par Véronèse, dont voilà quelques exemples, sur lesquels on retrouve l'idée du trompe-l'œil, avec ici cette petite fille qui semble surgir d'une vraie fausse porte, qui imite exactement une autre porte, des colonnes engagées avec des vraies fausses lumières. Véronèse a compris effectivement le vocabulaire de Palladio, puisqu'il reprend les balustrades. Et toute la Villa Mazère est entièrement décorée de cette façon. Avec des. Alors là, l'intérieur de la Villa Mazère aussi, qui n'est pas monumental, mais les jeux de perspective, comme on voit que Palladio sait en jeu parfaitement. Et Véronèse s'est mis en scène, qui s'est mis lui-même, je crois, en chasseur au fond. C'est le peintre Véronèse s'est aussi invité, si vous voulez, en permanence dans cette demeure. Vous avez même du vrai faux marbre, des vraies fausses colonnes. Ici, en fait, il n'y a que le tympan qui est en architecture réelle. Tout est faux, sinon. Donc vous avez aussi un plaisir du faux, un plaisir du trompe-l'œil. Hein, ça, on l'a dans le théâtre, on a un petit peu ce jeu sur les échelles. On l'a aussi dans la loge du capitaine, hein, cette espèce de scénographie, de plaisir, de jouer avec toutes ces échelles-là, ces profondeurs. Bah ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est, on voit très clairement que de là à là, il y a une continuité dans la Villa Mazère. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, elle se visite. Hein. Intérêt, c'est qu'elle se visite surtout la partie haute. La partie basse, il y a des pauvres malheureux qui y habitent. Et je pense qu'il y a certaines pièces, ici, même la partie haute, qui sont encore habitées. Donc... Je sais pas, mais... Et, alors là, vous avez vu les salles hautes. Alors là, voilà, la salle à manger, donc il y a même des pièces, etc. Et alors, vous connaissez l'anecdote, vous en avez parlé, c'est que, en fait, Palladio n'avait pas été très content des peintures de Véronèse. Pourtant, c'est lui qui l'avait demandé, parce que Véronèse avait trop compris et trop joué. Ce qui fait que les volumes purs de Palladio qui est quelqu'un qui aime bien la sensation comme de volume simple, clair et net, eh bien ils sont tellement perturbés par Véronèse que Palladio n'était pas très content. Il trouvait que Véronèse avait fait trop, avait presque trop bien compris et trop prolongé son univers. Alors là, les trompe-l'œil de Véronèse sont assez remarquables, puisque vous avez même ici, on croit qu'il y a une petite loge, il n'y a rien, tout ça c'est peint, y compris là il y a un vrai faux portrait en perspective qui est peint sur le côté. Comme si on était devant, effectivement, une sorte de petite narthex. Hein, mais tout est faux. Et toutes les colonnes ici sont fausses. Si d'ailleurs vous voulez aller plus loin sur la Villa Mazère, il y a Arte avait fait... vous savez, il y a les émissions architecture d'Arte qui sont assez remarquables. Il y en avait une spéciale sur la Villa Mazère. Alors, c'est peut-être retrouvable en streaming. Et y compris, il y a tout un travail sur les peintures, et c'est très très bien fait avec les volumes, les petits, disons, les maquettes. Les émissions d'Arte en architecture sont remarquables. Alors voilà la ville à Mazères. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Bon, on continue ici. Là, vous voyez aussi des gens qui surgissent. Alors, ça c'est typique aussi de la surprise, c'est voir et être vu. Hein, ça, je vous ai dit que ça faisait une des choses de Palladio, c'était faire voir la maison, mais quand on est aussi propriétaire, etc., il s'agit aussi de voir. Donc ce jeu sur les regards qu'on a chez Michel-Ange, qu'on a dans presque toute la tradition maniériste du XVIe siècle, eh bien on la retrouve aussi dans cette architecture. L'idée d'être surpris, donc c'est intime, et en même temps il y a un côté public, hein, comme on le voit ici. Et avec, alors, le programme, on va dire, iconographique est très varié. Hein, il y a des références, justement, je vais dire, à la littérature, essentiellement. Et rappelez-vous ce que vous avez montré, il y a des personnages au balcon qui sont en train de vous regarder. Hein. Vous avez des références, et là on les voit encore, les deux femmes et l'enfant qui sont là, un oiseau. Vous allez voir encore quelqu'un qui est en train de bouquiner ici, sur l'autre galerie, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, on va pivoter. Pourquoi ça ne pivote pas? Ah si, j'ai pivoté. Encore. Là, ici. Avec un petit singe. Donc on a aussi l'introduction dans le monumental et le jeu de la vie, de l'instant, une légèreté qui est vraiment, si on voit qu'on est une architecture du plaisir, il y a le jeu, il y a le jeu parce qu'il y a des règles qui sont claires, et donc comme les règles sont claires, on joue avec, puisque les règles étant bien établies, il n'y a pas d'angoisse, etc. Alors ça se visite, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller en Vénétie et puis visiter ça, c'est très bien, c'est très beau. Alors bon, les références, j'en parlerai peut-être une autre fois. Et y compris la vraie fausse tonnelle, ça c'est... Alors ça c'est typique du Véronèse. Alors là, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de références aux moissons, à la prospérité. Il s'agit quand même de faire un petit clin d'œil quand même à toutes les déesses et les divinités de la moisson et de la prospérité. Vous avez Bacchus ici, sans doute Cérès, Perséphone, etc., etc. Puisque, en fait, ce sont des propriétaires terriens, quand même. Ils possèdent des terres qui nourrissent Venise. C'est quand même aussi des fermes. Et donc, il faut aussi produire. Donc, vous voyez, la terre, la richesse de la terre, la fécondité de la terre ici, est célébrée dans une bonne partie des fresques de cette villa. Donc, ça fait aussi partie du programme. Là, on le voit clairement. Alors, en général, il y a toujours un Hercule pas loin, etc. Venise non plus pas loin, la Sérénissime, qui est souvent couronnée, parce qu'il s'agit aussi de montrer qu'on est quand même en référence, on est dans une sorte de projection de Venise, mais dans les terres, et puis quelques références plus ou moins religieuses, musicales, les plaisirs, tous les arts sont représentés. Comme musique, évidemment. Alors là, c'est vraiment Véronèse, c'est-à-dire que, alors qu'au XVIe siècle, une bonne partie des artistes sont quand même dans l'inquiétude, le trouble de la maniériste, on a vu avec Michel-Ange, etc. On a vu Tintoretticien aussi, qui sont les contemporains de Véronèse, mais qui sont dans l'inquiétude aussi, le trouble avec les guerres de religion, avec les inquiétudes aussi sur la représentation même du monde, le géocentrisme, héliocentrisme, est-ce que l'espace est infini ou pas, donc plein de questions se posent, mais là, on a quand même autour de Venise, une partie entière de la société qui se rassure et qui profite, qui profite de l'argent, du plaisir, des arts, des savoirs, d'un héritage de la Renaissance qui vont essayer de préserver, quels que soient les aléas quand même du XVIe siècle, qui sont quand même assez nombreux.
Est-ce qu'ils ont été touchés par la peste?
Alors, les pestes, oui, ça à Venise assez souvent, parce qu'il y a même la Salute, l'église de la Salute, ou la Scuola San Rocco, au XVIe siècle. Saint Roch, c'est celui qui protège de la peste. La Scuola San Rocco, qui est décorée par Tintoret, elle est... D'ailleurs, je crois qu'une partie de toutes ces villas palladiennes qui sont en terre, je crois... Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est lié aussi à la peste. Les familles riches ont quitté Venise parce que la peste, etc., pouvait être dangereuse aussi à Venise. Donc il y a l'idée de contrôler ces terres, puis d'y retourner, mais aussi se mettre un peu à l'abri des miasmes de Venise, etc. Donc c'est...
Parce que normalement, je crois que vous avez dit que les gens, après la peste, ils avaient l'air un peu... ils ne croyaient plus trop en la joie et tout ça.
Ah oui, ça c'est la grande peste du XIVe siècle. Oui.
Que, que là, ils étaient un peu joyeux.
Ah ben ça, c'est ceux qui se, ceux qui se protègent, justement. Il y a des privilégiés. Il y en a qui s'en tirent bien toujours. Hein. Donc là, on est quand même un peu dans ce monde-là. Donc Véronèse, si vous voulez, c'est un petit peu... Alors, quelques petits clins d'œil religieux, mais bon, qui ne sont pas essentiels. Alors Véronèse, quand même aussi, là où, dans cet épisode de légèreté, explore des domaines qui ne sont pas encore des sujets à part. Par exemple, le paysage, les petites scènes de genre, les trompe-l'œil, des choses comme ça. C'est des choses que Véronèse fait avec aussi une grande virtuosité, puisqu'en fresque, la fresque, rappelez-vous, c'est fait quelque chose qui doit être fait beaucoup plus vite. Et là, il réussit de façon assez remarquable, avec quelques touches colorées, presque on dirait presque des aquarelles, à faire des sortes de scènes, de petits paysages qui sont remarquables, et y compris la conscience des ruines. Le trompe-l'œil, on le voit avec le chien qui apparaît même devant la balustrade. Alors, il y a plein de petits trompe-l'œil dans la Villa Mazère, il y a même un balai oublié, une paire de chaussures, il y a des jeux comme ça. Celui qui ouvre la porte ici, là, la petite fille ici qui ouvre la porte. Avec les fossettes, donc... Bon, ça, c'est autre chose. Et là, c'est ce que je vous ai dit, c'est la femme qui lève le doigt, alors les âges, hein. Et ça, je vous ai parlé aussi de l'importance des regards. Alors, les regards, c'est tout bête, c'est pas anecdotique, parce que vous avez vu que le regard sur les trompe-l'œil, c'est une question de regard. Où je suis, qu'est-ce que je vois, etc. Le regard dans l'approche d'un bâtiment. Hein. Donc, c'est la scénographie aussi. C'est-à-dire que l'intensité du regard, on l'a représenté. Mais en fait, tous les dispositifs sont des dispositifs aussi qui instaurent le spectateur à des places dédiées et conçues. C'est-à-dire qu'on sait où il doit se mettre. Et donc l'artiste, quand il fait son travail, il a tout pensé, y compris l'angle de vue, l'endroit où on va être le mieux pour voir une fenêtre, voir une sculpture, voir un bâtiment, le recul nécessaire. Donc vous avez un jeu aussi d'approche, un jeu de dispositif scénique très vaste, hein, puisque... Et là, je vous dis, des petites scénographies dans lesquelles vous avez aussi des références à d'autres bâtiments. Hein. Bon, ça, c'est d'autres peintures de Véronèse. Ça, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On avait eu... Bon, ça, on a vu... Ça, c'est autre chose, je sais plus ce que c'est. Ah, ça, c'est les parties... Ça, c'est en bas. La Villa Mazère, c'est le petit jardin qui est derrière. Vous avez une petite fontaine, c'est un arc. Alors là, on est dans le côté intime. Alors ça, si... C'est aussi intéressant, puisque si vous êtes une personnalité importante, vous avez une partie visible, puis vous avez quand même le droit à un peu d'intimité. Donc, dans le même bâtiment, il faut préserver à la fois des zones d'apparat, se montrer, et en même temps aussi pouvoir finalement être à une échelle très humaine. Donc, vous avez aussi des étages, vous avez des parties privatives, dans lesquelles on retrouve quand même... De l'intérieur, la fameuse serlienne avec l'entrée principale flanquée de deux ouvertures, etc. Mais qui donne sur le jardin à l'intérieur avec des petits salons où on pourrait bien se rafraîchir. Ça, c'est Véronèse qui s'est représentée en chasseur et qui, comme on dit, s'était invitée sur... Alors, vous pouvez en trouver d'autres. Hein. Là, est-ce que j'ai tout montré à peu près? Oui, voilà. Alors, tchoc. Voilà pour Palladio. Donc écoutez, sur l'architecture, je reviendrai plus tard, quand on verra peut-être le Bernin, ou on verra l'architecture baroque, etc. Mais le chapitre autour de Villa Mazère et Palladio, le voilà fini. Alors on va continuer dans l'architecture avec une architecture bien différente, mais c'est exactement la même époque. Et c'est Bruegel. Hein, donc il s'agit de la tour de Babel de Bruegel, donc nouveau chapitre. Mais en fait, totalement contemporain, puisque Bruegel, c'est 1520-1569, je crois. Donc il est mort très jeune, hein, 49 ans. Vous êtes tous d'accord, c'est très jeune. Donc, les dates, quand même, de vie et de mort de Bruegel sont très symptomatiques, puisque si vous voulez, 1520, juste pour rappel, hein, 1520, c'est la mort de Raphaël, de Léonard de Vinci, c'est 1920. Bosch aussi. Bosch, en fait, quand on rapproche Bosch de Bruegel, c'est assez drôle, parce qu'ils n'ont jamais été contemporains. Et Bosch, c'est contemporain de Léonard de Vinci. Jérôme Bosch, il meurt en 1520 ou 1521, un truc du genre. Donc, si vous voulez, c'est ces années-là. Et Bruegel, donc, vous rappelez-vous que cette année 1520 à peu près, c'est quelque chose qui historiquement est très important, puisque en 1524, ça va être la réforme protestante, le sac de Rome. Donc c'est un basculement complet de l'édifice, on va dire, catholique européen. Et il meurt en 1569, 3 ans plus tard, c'est la Saint-Barthélemy. Sauf que la vie de Bruegel, elle est presque incluse dans un siècle, le XVIe siècle, qui est marqué par 2 dates. Un peu après le début, 1520 en gros, 1524, et 1572, date qu'on retient, mais qui est un des épisodes les plus sanglants des guerres de religion, où les catholiques massacrent les protestants à Paris. On connaît l'histoire tragique, effroyable, etc. Donc si vous voulez, on voit bien. Alors, c'est contemporain de Palladio. Le problème, on va dire, c'est qu'en Italie, ils ont des soucis avec la réforme, mais il y aura quasiment jamais de protestants de façon importante en Italie, ou très peu, ou alors je me trompe, c'est quelque chose qui restera très mineur. L'Italie restera à grande majorité catholique, évidemment, avec le pape, avec l'influence, le poids gigantesque de l'Église catholique, y compris financier, au niveau foncier, bâtiment, culturel. Donc la réforme protestante, il y aura peut-être des échos, mais je ne connais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais il n'y aura rien. Alors que en Flandre, en Allemagne, en Suisse, en France, en Hollande, etc., l'impact du protestantisme sera énorme pour différentes raisons. Une des raisons que vous devez avoir entendu parler de cette théorie dira que le protestantisme naît aussi du capitalisme, un petit peu, et d'une bourgeoisie un peu indépendante, un peu libre, qui sait lire, qui va lire la Bible, qui va être plus autonome, qui se sent responsable, se sent moins apte à obéir à des ordres. Et donc, si vous voulez, l'autonomie économique de la bourgeoisie, on dit, sera un terreau très favorable au protestantisme qui, justement, remet en cause toutes les hiérarchies religieuses, puisqu'il n'y a pas de pape, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a pas d'évêques, il n'y a même pas de prêtres, c'est des pasteurs, donc ils font partie de la collectivité, de la communauté. Vous êtes responsable devant Dieu. Il n'y a pas tous les espèces de trafic, de magouillage avec les indulgences, avec le purgatoire, avec le pardon et la confession qu'il y a dans la tradition catholique. Donc, et puis vous avez l'idée qui est née aussi de l'imprimerie, de l'accès direct à la Bible. Donc le protestantisme, en fait, est beaucoup plus moderne. Il est dépouillé, beaucoup plus moderne, beaucoup plus libre, et il se dépouille, oui.
Mais on pouvait être riche en toute sérénité.
Et on pouvait être riche, tout à fait. Il y avait aussi tout à fait, vous savez, c'est que dans le protestantisme, accumuler les richesses, ben c'était très bien. Et donc, par rapport à une bourgeoisie, notamment hollandaise, suisse, allemande, etc., qui fait que accumuler les biens et les richesses, c'est tout à fait licite, ça fait partie de croiser et multiplier, et bien donc, faire utiliser son savoir et la nature pour la faire croître, ça correspondait parfaitement. Donc, ça se prête, et le terrain économique, culturel, politique, etc., fait dire que le protestantisme est beaucoup plus moderne et voire est lié au capitalisme et au début du capitalisme marchand en Europe. Alors voilà, donc la Flandre, on est en plein milieu, quoi, donc, au cœur de cela, parce que vous avez une Flandre qui va rester catholique, il y aura des guerres de religion, la Hollande qui deviendra essentiellement protestante, vous avez une partie de l'Allemagne aussi qui va être partagée, etc. Donc Bruegel est au cœur de ça. Bruegel est au cœur. Et les Espagnols catholiques, en plus, le catholicisme est un peu mal vécu aussi en Flandre, puisque les Espagnols sont aussi, bien que catholiques, en Flandre catholique, mais sont aussi vécus comme des occupants, etc. De la même manière, ça va accentuer la crise religieuse, de la même manière que le sac de Rome est fait par des troupes catholiques, des Français et des Espagnols. Donc, si vous voulez, le sac de Rome en 1520, 3 ou 4, je ne sais plus, est fait par des troupes catholiques. Donc l'édifice catholique est fissuré. Alors, Bruegel là-dedans. Alors, Bruegel, justement, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui progressivement, on va le voir un peu plus tard, se dégage ou se désengage des principes, justement, religieux pour aller beaucoup plus vers une sorte d'autonomie, d'indépendance de pensée. Et il va prendre au sens strict du recul. Alors le recul, justement, j'arrive à cette histoire de Babel, cette tour de Babel, parce qu'on peut dire qu'une bonne partie de l'œuvre de Bruegel, c'est de prendre du recul. Prendre du recul pour pouvoir penser. Pour pouvoir penser, avec du recul, la complexité du monde. Alors, La tour de Babel, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que dans les œuvres de Rogel, d'abord parce qu'elles sont toutes très belles, et celle-ci, elle est particulièrement emblématique d'un basculement de Bruegel. Hein, parce que Bruegel, il aura une partie sombre que l'on verra, qui aura une partie au contraire apaisée. Et on peut dire que dans la tour de Babel, il est en train de mettre en place une sorte d'apaisement entre la folie du monde et puis en même temps la réconciliation avec le principe de l'œuvre. Produire et créer, malgré tout, c'est avancer. Et c'est un petit peu ce que Bruegel nous montre ici. Alors, la tour de Babel, mythe biblique, etc., on connaît à peu près, mais on voit que c'est intéressant. Parce que le paradoxe de la tour de Babel dans la Bible, c'est qu'en fait, les langages sont introduits dans le peuple qui construit la tour de Babel pour qu'ils se disputent, pour qu'ils ne se comprennent plus, et qu'ils interrompent leur travail de prétention et qui est une sorte de vanité de construire une tour qui irait jusqu'au Dieu. Donc le Dieu introduit, je crois simplifier, les langages dans l'humanité pour qu'ils ne puissent plus se comprendre et puissent plus travailler ensemble, etc. Néanmoins, donc c'est une punition, etc., qui rappelle aux humains leurs limites et qui les divise. Là où c'est assez étrange avec Bruegel, c'est que malgré tout, il reste quand même la tour qui commençait. C'est une œuvre exceptionnelle. Et la diversité des langages, est-ce que c'est une pauvreté? Est-ce que c'est une privation? Est-ce qu'au contraire, c'est une richesse? Et on peut se poser la question avec Bruegel, il y aura une question qu'il va aborder presque toute sa vie, dans toutes ses œuvres, c'est que la diversité, au lieu d'être une division, quelque chose qui va amoindrir la beauté et l'unité, c'est quelque chose finalement qui enrichit. La diversité des peuples, la diversité des mondes, la diversité de la nature, c'est en fait une richesse. Et une œuvre, même si elle est ambitieuse, même si elle est vaniteuse, eh bien, elle reste quand même une œuvre. Et finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup de tenter quelque chose, même de vaniteux, si il en reste quelque chose? Alors ça, c'est quand même un peintre qui le fait. C'est comme quelqu'un qui est peintre. Donc, lui aussi, il crée quelque chose. Lui aussi, il est ambitieux. Lui aussi, il prétend à quelque chose. Il vise très haut. Alors, il vise très haut, comme la tour, et Bruegel vise très haut. Quand on voit son œuvre en détail, c'est qu'il met la barre très très haut au niveau de la qualité, de l'intensité, de la précision. C'est-à-dire que le recul qu'il prend, et c'est là où il est justement dans la conciliation, il prend un grand recul, si vous voulez. Comme Bosch, il donne l'impression qu'il est mis en hauteur, qu'il est loin de son sujet. Que pour voir toutes les choses, comme un philosophe ou comme un penseur, il faut qu'il prenne du recul. Un recul physique, un recul spatial et un recul presque philosophique. Et le premier plan est petit. Ça veut dire que Bruegel lui-même, c'est un truc tout bête, mais à tous les... Or, Bruegel connaît parfaitement la perspective. La perspective depuis Van Eyck en Flandre, elle est conçue. Puis Bruegel, c'est quelqu'un de très cultivé qui connaît ça parfaitement. La perspective... Le peintre, il a toujours les yeux à la hauteur de l'horizon. C'est-à-dire que les yeux de Bruegel, ils sont au niveau de l'horizon. C'est-à-dire que Bruegel, pour avoir les yeux au niveau de l'horizon, soit il est beaucoup plus grand que tous les gens qui sont ici, soit il est plus loin, mais il est perché sur une colline, au sens strict. C'est-à-dire qu'il est en retrait, il est au-dessus, et il nous montre ce qu'il contemple, avec un recul dans l'espace. Prendre du recul lui permet de tout montrer, de ne pas être justement dans la boue, dans le premier plan. Il n'est pas partie prenante directement de la scène qu'il nous représente, mais il nous la montre avec cette distance. Alors on peut voir chez Bruegel vraisemblablement l'idée de prendre du recul, y compris dans la société dans laquelle il est, qui est une société en conflit, qui est une société en guerre, dans laquelle on est sommé de prendre parti soit pour les Espagnols, soit pour les Flamands catholiques, soit pour les catholiques, soit pour les protestants. Donc vous avez quelque chose qui est sans doute aussi quelque chose sur lequel il veut s'échapper pour trouver une sorte d'issue. Et l'issue de Bruegel, ça sera justement un certain humanisme. Alors, la tour de Babel, elle est aussi intéressante au niveau iconographique, parce que ça fait référence biblique, mais le modèle qu'il a pris, c'est, tout le monde s'accorde là-dessus, c'est quand il est allé à Rome, il s'est inspiré du Colisée, c'est-à-dire qu'il a vu le Colisée. Et toute la partie haute ici, c'est quasiment des croquis, des notes qu'il a prises, et vous allez au Colisée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré du Colisée, il a déployé le Colisée, il l'a transformé quasiment en tour de Babel, parce que les artistes voyageaient beaucoup et Bruegel est allé en Italie, ça on le sait très bien. Il est revenu, donc c'est aussi une prise de notes. Et donc il synthétise la Bible, la tradition grecque et romaine, etc. Le paysage et puis ces humains qui sont un peu prétentieux, bah, ils font quand même une œuvre exceptionnelle. C'est quand même une œuvre exceptionnelle, même inachevée, elle est quand même sublime. Elle est sublime, et comment est-ce que Bruegel nous montre qu'il la trouve sublime ? Ben, par l'attention qu'on lui-même met à décrire tous les détails. C'est-à-dire que là, c'est dommage, parce que il me semblait que j'avais une définition de meilleure qualité, je vais essayer de la retrouver. Vous pouvez zoomer, hein. zoomer, comme Bosch, oui, tous les détails. Et vous avez un hommage ici, ben, à tous les métiers. Là, vous avez une maison, hein. Là, vous avez les bâtiments, les loges des maçons, hein, et des constructeurs. Là, vous avez toutes les roues. C'est-à-dire que vous avez aussi une sorte d'inventaire de toutes les techniques de construction. C'est-à-dire que la tour, elle a une réalité de bâtiment, mais y compris de ceux qui la font, des matériaux, de tous les métiers qui sont là. C'est une sorte d'œuvre bilan de tout le savoir-faire de la construction qui est absolument prodigieuse. Bruegel nous montre aussi qu'il a une maîtrise hallucinante de la perspective, un peu comme Uccello, parce que les perspectives en spirale et en ellipse, c'est quelque chose de très complexe, avec des formes tronconiques, etc., comme ces escaliers, etc. Donc c'est plus le jeu de lumière, plus les échafaudages. Et donc c'est une sorte de labyrinthe. On se perd dans la diversité des techniques, des moyens, de l'humanité, et on est en même temps émerveillé par ce que les humains sont capables de faire. Et en plus, par cette de gratuité, une œuvre gratuite, en fait, une œuvre artistique. Alors, le mythe de la tour de Babel, je vais y revenir. Vous avez aussi un paysage qui est exceptionnel, et quand on parle de la diversité ici et du recul, Bruegel, en étant reculé, peut nous montrer tout, alors que s'il était les pieds au sol, eh bien, on verrait que le premier plan. Donc, vous avez aussi cette espèce de posture philosophique et intellectuelle qui est finalement de pas être totalement dans le monde pour mieux le voir, hein, et ou à un moment en tout cas se reculer, parce que pour le peindre aussi bien, le voir aussi bien, il faut quand même être capable de repérer aussi. C'est-à-dire que il ne regarde pas comme un étranger, il le regarde comme quelqu'un qui à un moment s'éloigne pour mieux voir, mais pour tout voir. Et là où Bruegel est exceptionnel aussi, c'est qu'il nous donne aussi à voir. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à regarder ses œuvres. C'est-à-dire que vous avez, il transmet quelque chose. Lui, il a vu, il nous montre ce qu'il a vu, et il nous demande aussi de faire le même travail que lui, en tant que spectateur. Et alors après, vous avez aussi une façon remarquable de Bruegel, c'est de nous faire rentrer dans l'œuvre. On peut y rentrer directement, on peut y rentrer par le sol, par le premier plan, et la scène principale avec le roi, je ne sais plus lequel, qui avait décidé de faire construire la tour de Babel, et les ouvriers, maçons, tailleurs de pierre, constructeurs, etc. Et on peut passer comme ça d'un certain premier plan vers l'arrière-plan. Alors, chose quand même notable chez Bruegel, c'est que Bruegel aussi, c'est quelqu'un qui pense son œuvre comme un tout. C'est que presque tous les tableaux de Bruegel ont exactement la même taille. C'est-à-dire que lui aussi, il a conçu presque son œuvre comme une totalité, dont chaque tableau est comme une partie d'une œuvre globale. Donc lui aussi, il a pensé la partie et le tout. Et la notion de la partie et le tout, un tout constitué de parties qui se répondent les unes aux autres, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la tour de Babel. Alors, la tour de Babel, il en a fait plusieurs. Bon, ça, attendez, c'est peut-être celle-ci qui est de meilleure définition. Non. Je croyais l'avoir intégrée ici. Alors ça, il y a cette peinture. Par contre, je n'ai jamais vu. C'est de lui aussi, mais sans doute antérieure, parce qu'elle est moins intéressante au niveau de la structure, du paysage, de la lumière, du premier plan, etc. Donc ça, c'est une autre de ces versions, hein, dans laquelle on est plus dans le côté du mythe, atteindre le ciel, dépasser le ciel, etc. Mais il y a beaucoup moins d'humains, et les humains sont beaucoup plus petits, hein, on est moins dans cette espèce d'équilibre, hein, y compris le ciel est plus bas, on a moins, on n'a pas la même sérénité, on a quelque chose d'un petit peu plus tragique. Il faut voir que Bruegel a commencé quand même dans des visions plutôt tragiques, et vers la fin de sa vie, vers des versions plutôt apaisées du monde. Hein, on verra ça la prochaine fois. Alors, d'autres. Bruegel n'est pas le seul à avoir fait les tours de Babel. Attendez, ça c'est de Hendrik van Cleef, c'est contemporain. Hein, c'est un contemporain de Bruegel. Mais si vous voulez, vous voyez comment le même sujet. On a oublié van Cleef, on se souvient de Bruegel, on comprend un peu pourquoi. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est quand même moins fort, moins juste, même là aussi, hein, c'est plus anecdotique, il n'y a pas la même cohérence intellectuelle, et puis au niveau de la perspective, c'est tout traviole, même s'il y a du stress, alors que Bruegel, il y a une cohérence parfaite des volumes, des monuments, etc. Donc la tour de Babel, c'est quelque chose qu'on va trouver, évidemment. Hein. Alors, je termine juste avec Brian, mais je continuerai la prochaine fois. Le thème de la vanité aussi, on le retrouve dans la chute d'Icare, hein, toujours de Bruegel. On retrouve le même dispositif d'un horizon assez haut. Bruegel prend du recul et nous montre une scène. Et au premier plan, vous avez un paysan qui laboure son champ. Et Icare, en fait, n'est repérable que par les deux petites pattes qui tombent dans l'eau et les plumes. C'est que là aussi, c'est toujours le thème aussi de la vanité. C'est le thème de la vanité. La vanité d'Icare, qui est un peu déraisonnable. Et puis la vanité, on va dire, raisonnable du paysan, qui est de travailler la terre aussi, le soleil et la chaleur, mais de façon beaucoup plus ordonnée et positive. Donc vous avez aussi deux personnages. Le paysan, bah, qui lui, regarde pas le soleil, regarde la terre, mais est en train de créer une véritable richesse. Et vous avez ici Icare, qui est un peu dans l'oubli de tout, est en train de tomber, etc. Chose commune à la tour de Babel et à la chute d'Icare, c'est la vision aussi en ellipse, une vision panoramique. Bruegel est presque un des seuls, avec Bosch auparavant, avec notamment le Jardin des Délices, etc., à présenter des visions panoramiques. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien la perspective, et en s'élevant, ils montrent tout. Hein, et on y reviendra là-dessus. Bruegel présente aussi une version bombée, puisque vous avez ici le premier personnage est beaucoup plus gros, et à gauche, le cheval est plus petit. On a presque l'impression de ce qu'on appelle en fish eye, œil de poisson. Bruegel est le seul à avoir fait des perspectives œil de poisson comme ça. Hein, c'est rebombé de Judas, etc. Donc, sa maîtrise de la perspective, elle est absolument grandiose. Donc on continuera dans 15 jours hein, autour de Babel. J'essaierai de trouver une meilleure qualité. Thank you.